CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio. CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour.
Le Touski.
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Le présent document ne contient aucun conseil juridique. Le présent document a été préparé avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. Le présent document ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un avocat. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au condensé juridique en droit du travail. Cette semaine, on va aborder les rapports collectifs en matière de droit du travail. Donc, pour ceux qui ont écouté les dernières capsules, on faisait un retour sur les rapports individuels en matière de droit du travail, c'est-à-dire les protections individuelles qui s'appliquent à chaque salarié, donc au niveau du salaire, au niveau de la durée du travail, etc. Mais il faut savoir qu'en matière de travail, les rapports collectifs sont aussi super importants. On entend souvent parler du syndicat, de la convention collective, etc. Donc, c'est tous des sujets qu'on va aborder cette semaine dans le condensé juridique. Donc, dans la première capsule qu'on vous présente aujourd'hui, on va aborder les bases en matière de rapports collectifs en droit du travail qui se retrouvent en fait dans le Code du travail, qui est la loi principale dont on va discuter toute la semaine. Ensuite, dans la deuxième capsule, on va discuter de tout ce qui touche le syndicat. Plus tard, on va discuter de la convention collective en soi et de sa négociation. On va avoir une capsule complète dédiée à la grève et au lockout, qui sont des événements qui sont souvent très médiatisés puis qui sont importants de bien comprendre. Puis enfin, la dernière capsule, on va parler en fait qu'est-ce qui s'offre à nous lorsqu'on a un conflit en matière de relations de travail, c'est quoi les différents recours possibles puis les différentes manières de résoudre ces conflits-là. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer, comme je l'expliquais, par vous expliquer un peu ce qu'est le Code du travail. Donc, Marie-Lou va commencer.
Oui, c'est ça. Allô, Maud. Je m'appelle Marie-Lou. Donc, comme tu as dit, Maud, pour vraiment bien établir les bases, on va vraiment venir parler de l'objectif du Code du travail, en fait. Donc, l'objectif, essentiellement, c'est d'établir un régime de négociation collective des conditions de travail des travailleurs. Donc, en gros, au Québec, là, ce qu'on veut dire par Code du travail, ça va vraiment venir se limiter à l'organisation de la présence syndicale au sein d'une entreprise. Entre autres, comment un syndicat peut naître et exister en quelque sorte, là, comme quel genre de personnalité cette chose a là, et comment justement ça vit au sein d'une entreprise. Donc, en fait, comme on l'a parlé dans les dernières semaines, dans les dernières capsules, il existe quand même beaucoup de lois en droit du travail au Québec et un même mot pourra varier de sens en fonction des objectifs. Et par exemple, on a vu dans d'autres capsules la loi sur les normes du travail, le terme salarié, ça exclut pas nécessairement tous les autres types de cadres, parce que l'objectif de la loi, si on regarde vraiment comme le but de la loi, c'est l'ensemble des normes qui s'appliquent au plus grand nombre de personnes possible. Par contre, si on regarde vraiment dans le Code du travail, comme on le verra dans les prochaines capsules pour vraiment les rapports collectifs, l'objectif de cette loi-là, du Code du travail, c'est d'organiser la présence d'un syndicat au sein de l'entreprise. Donc, on exclut à ce moment-ci, on va exclure tous les représentants de l'employeur dans la notion de salarié, pardon. Donc, encore une fois, là, il est important de toujours vérifier comme l'espèce de, les définitions de tous les mots, c'est important. Les mots, c'est très, très important en droit. Donc, c'est tout le temps vraiment important de regarder la finalité des mots et ici particulièrement, c'est important. Donc, en fait, si on lit vraiment le Code du travail, il faut garder à l'esprit que la liberté d'association, ça permet aux salariés de se regrouper, entre autres, et d'une autre part, de participer en groupe à la négociation collective des préoccupations, vraiment des enjeux liés au milieu du travail. Donc, si on regarde en plus la liberté d'association, ça le dit en tant que tel, c'est une liberté, là, ça se retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés, dans la Charte des droits et libertés de la personne, donc c'est la Charte québécoise. C'est quelque chose qui est fondamental. Ça, comme je l'ai dit, c'est dans les deux chartes, là, canadienne et québécoise, ça bénéficie d'une protection constitutionnelle très importante. La protection est inspirée comme du droit international. Donc, si on regarde vraiment plus justement au niveau international, il y a l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations unies qui ont des outils pour la protection de la liberté d'association. Donc, c'est vraiment un droit qui est fondamental, pas juste au Québec, mais partout ailleurs dans le monde. Donc, on affirme dans plusieurs lois la présence de la liberté d'association. Donc, pour mettre en œuvre cette liberté-là, il y a des droits individuels qui sont établis pour les salariés et des droits collectifs sont établis là pour justement qu'ils puissent s'associer. C'est une liberté qui protège la possibilité pour un individu de participer à la formation de l'association, donc vraiment comme former cette association-là, ou de s'y joindre par la suite, en plus de protéger vraiment comme l'existence et la présence de l'association. Donc, c'est important de pas oublier que le droit de ne pas s'associer n'est pas présent dans les textes des différentes lois. Donc, c'est la liberté d'association et non la liberté de ne pas s'associer, là. Donc, c'est ça qui est protégé. C'est vraiment l'association. C'est un droit qui est protégé. Et c'est justement, ça implique quelques contraintes. Donc, oui, c'est ça. Le prélèvement de la cotisation syndicale a été jugé comme ne portant pas atteinte au droit de ne pas s'associer. Et la communication des coordonnées résidentielles aux syndicats ne porte pas non plus atteinte au droit de ne pas s'associer. Donc, c'est des petits exemples ici pour vraiment venir prouver que faut vraiment dissocier le droit de ne pas s'associer et les droits de l'association.
Donc, pour revenir plus précisément au Code du travail, on va venir poser le principe de base. En fait, ce principe de base-là donne le droit à tout salarié d'appartenir à un syndicat et de fonder une association de salariés. Quand on parle d'une association de salariés qui va être accréditée, puis d'un syndicat, ça va être des synonymes. Donc, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'association accréditée qui va être un syndicat, sinon c'est juste une association de salariés normale, si on peut dire entre guillemets. Donc, cet article-là qui vient poser le principe de base qui donne le droit à tout salarié d'appartenir à un syndicat, bien, ça vise à garantir le droit des salariés d'appartenir à une association ou d'en fonder une, mais ça, ce droit-là, il s'exerce en fait sans intimidation, menace, ingérence ou domination de l'employeur. Donc, c'est vraiment des droits qui servent à protéger les salariés dans leur rapport avec leur employeur. Le Code du travail a aussi mis en place des mécanismes de protection qui servent à protéger les salariés qui vont exercer des droits en vertu du Code du travail. Par exemple, il va être interdit pour un employeur de congédier, de suspendre, de déplacer ou d'imposer une mesure discriminatoire ou toute autre forme de sanction à l'égard d'un salarié qui a exercé un droit qui résulte du Code du travail. Puis quand on y pense, c'est logique parce que c'est des droits qui sont protégés. Donc, c'est interdit de punir quelqu'un qui a exercé un droit qui avait le droit d'exercer, en fait. Il y a un recours spécifique qui existe pour un salarié qui subit une sanction en raison de l'exercice d'activité syndicale. Donc, on n'entrera pas dans les détails de ça ici aujourd'hui, mais sachez-le, si jamais c'est une situation qui vous arrive, bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Aussi, en plus d'offrir des protections pour les salariés au titre individuel, le Code du travail va aussi prévoir des protections pour l'association en soi. Ces protections-là vont passer notamment par le droit d'affiliation, le droit d'action collective et le droit de l'association de poursuivre ses activités sans entrave, ingérence, intimidation ou menace de l'employeur, encore une fois. Si jamais il y a une violation de la liberté de l'association au sens du Code du travail, il pourrait même y avoir des sanctions pénales. Donc, comme Marie-Lou vous l'a exposé, c'est une liberté qui est fondamentale, qui est protégée. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre système juridique. Puis, dans le fond, pour qu'il y ait sanction pénale, il faut vraiment qu'on vienne prouver l'intention coupable de la personne derrière l'action qui a été posée. Si jamais on ne se rend pas à ce niveau-là de preuve, donc on n'est pas capable de prouver une intention coupable, mais que l'action a été posée quand même, on va plutôt se retrouver dans les litiges civils. Puis à ce moment-là, on va aller devant le tribunal administratif du travail, puisque c'est lui qui a compétence pour tous les litiges civils qui portent sur une violation de la liberté d'association.
Exactement, Maud. Donc, c'était tout pour la première capsule. On vous a vraiment fait un petit exposé du Code du travail. Donc, vraiment pour venir établir les bases, venir parler de la liberté d'association qui est vraiment très importante, fondamentale et qui est protégée à tout prix. Donc, ça va vraiment vous permettre de comprendre le reste des notions pour vraiment les recours collectifs et tout ça en droit du travail. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et restez avec nous pour les prochaines capsules.
Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue au condensé juridique en matière de droit du travail. Aujourd'hui, Marie-Lou et moi, on va vous parler en fait du syndicat.
Oui, donc merci Maude. Comme tu l'as dit, on va parler du syndicat. C'est une merveilleuse association de salariés qui est quand même très importante et qui a une structure bien reconnue et bien particulière. Donc, en fait, le syndicat, c'est vraiment une drôle de bébite, là. C'est comme une seule entité qui représente vraiment comme les salariés dans le but de négocier, de faire appliquer ce qu'on va parler comme plus dans une autre capsule, mais d'une convention collective de travail. Donc, cette association-là, ça comprend trois éléments essentiels, en fait, sa composante, donc vraiment sa composition, sa finalité et sa forme. Donc, si on regarde, cette association-là doit réunir des salariés et ça peut pas réunir vraiment d'autres choses comme du personnel de gérance ou des travailleurs autonomes. C'est vraiment comme marqué dans la loi. Par contre, si on se rend compte à un moment donné qu'il y a une personne qui est pas un salarié, mais qui appartient et qui participe de manière accidentelle au syndicat, mais qu'elle fait de toute bonne foi, là, et ça, la bonne foi, on en a déjà parlé, si je ne me trompe pas, dans le reste des capsules du droit du travail, mais c'est vraiment comme une notion et qu'on va parler plus en détail dans les prochaines capsules également. Mais si justement on se rend compte qu'elle fait partie du syndicat, mais que c'est pas une personne qui est salariée au sens de la loi, mais qu'elle fait ça de bonne foi, on va quand même lui permettre de garder son titre et de personne qui est dans le syndicat. Donc, on va pas l'expulser, elle va pas perdre ce caractère-là. Donc, ça, c'était pour la composition. Pour ce qui est de la finalité, le syndicat doit aussi s'intéresser aux intérêts économiques, bien évidemment, et sociaux, éducatifs de ses membres. Et ça faudrait que ça vise particulièrement la négociation. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'élément central du syndicat, c'est qu'on veut négocier les conventions collectives et les appliquer, bien évidemment. C'est pas juste important de la négocier, il faut aussi qu'elle soit capable de se faire appliquer. Et cette finalité-là, ça va vraiment commander le contrôle de l'association par les salariés qui en sont membres du syndicat. Ensuite, pour ce qui est de la forme, le Code du travail est quand même très souple pour ce qui est vraiment de la forme juridique de l'association. Donc, il va laisser aux salariés et à leur regroupement, donc vraiment comme leur association, le choix de la forme et de la structure que va prendre ce syndicat-là. Donc, c'est pas nécessaire que la société soit constituée en personne morale. Personne morale, c'est qu'on veut dire une entreprise qui a un statut juridique quand même propre à lui-même. Et en pratique, néanmoins, là, c'est... Il y a plusieurs syndicats qui sont constitués en syndicats professionnels. Là, on en connaît une couple. Et dans tous les cas, en fait, l'association des salariés doit quand même exister. Je veux pas dire on se fout de sa forme, là, mais c'est le but ultime, c'est que le syndicat il existe en tant que tel. Là. Donc, il y a un minimum quand même de conditions qui demeurent requis au constat de cette existence-là. Mais comme par exemple, si je peux en nommer une couple, là, la tenue d'une réunion de formation, la signature de carte des membres, le paiement de la cotisation syndicale, l'adoption d'une constitution du statut et l'élection de dirigeants.
Donc, dans la première capsule, on a parlé qu'on fait une association accréditée puis un syndicat, c'était des synonymes. Donc, pour qu'une association soit accréditée, dans le fond, puis qu'elle soit reconnue comme un syndicat, il faut qu'elle respecte trois conditions. Donc, la première, c'est simplement qu'il faut déposer une requête afin d'être accrédité comme représentant. Puis, dans ce cas-là, bon, il y a certains délais qui se présentent en fonction de la situation respective. On n'entrera pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais c'est quand même à savoir qu'éventuellement, il va falloir déposer une requête. Ensuite, il faut que cette association-là représente une unité appropriée. Ce qu'on entend par unité appropriée, en fait, c'est que le groupe de salariés, il faut qu'il soit suffisamment homogène pour qu'on considère que l'unité est appropriée, parce que l'objectif, éventuellement, bien, c'est de conclure une convention collective qui va comprendre les conditions de travail qui s'appliquent à un groupe particulier. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une certaine homogénéité pour que l'entente qu'on conclut, bien, elle s'applique à l'ensemble des membres du groupe de la bonne façon. T'sais, il faut que le groupe ait assez d'intérêts en commun pour que ça vaille la peine que tout le monde ensemble ait une convention qui s'applique à tous ces gens-là puis que ça fasse l'affaire de tout le monde. Donc, Dans le fond, ça va être à l'association du salarié qui veut devenir le représentant, donc qui veut se faire accréditer, qui veut être un syndicat, qui doit proposer une description du groupe de salariés, ce qu'on va éventuellement appeler l'unité de négociation. Donc, c'est elle qui doit fournir la description du groupe de salariés qu'elle veut représenter chez l'employeur. Donc, il n'y a pas de contenu obligatoire à une unité de négociation. C'est même prévu dans le Code du travail qu'un seul salarié pourrait former une unité de négociation si les conditions s'appliquent. On s'entend que ça reste assez rare, mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas vraiment de conditions strictes par rapport à ça. Par contre, l'étendue maximale d'une unité de négociation, ben ça va être l'ensemble des salariés d'un employeur, bien évidemment. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le code n'envisage pas d'unité multipatronale, donc il ne peut pas avoir de formation d'unité qui regrouperait les salariés de plus d'un employeur. Donc, minimum un salarié pour une unité de négociation, maximum ben, tous les salariés d'un employeur. Puis, dans le fond, pour établir le caractère de l'unité appropriée, puis tout ça, comme il n'y a pas beaucoup d'indications dans la loi, mais c'est la jurisprudence qui est venue établir certains critères que Marie-Lou va vous présenter.
Exactement. Donc, c'est ça, comme tu as dit, la loi est quand même est un petit peu silencieuse sur la définition de l'unité appropriée. Donc, ce qu'on fait tout le temps en droit quand la loi est silencieuse, ben on demande aux tribunaux d'avoir leur avis. Donc, on vient chercher les critères dans la jurisprudence et il y en a 5 qui sont comme plus généralement analysés. Donc, pour le premier, c'est la communauté, donc vraiment le regroupement d'intérêts sur le plan des relations de travail entre les salariés. Donc, cette communauté-là d'intérêts, elle s'apprécie vraiment en tenant compte de quelques petits caractères, là. Donc, entre autres, la nature des fonctions exercées par les salariés, l'interrelation entre ces fonctions-là, des qualifications requises, la structure des relations de travail, l'autorité appliquée aux salariés, le partage des mêmes conditions de travail, une cohésion interne du groupe, on va parler aussi des salaires, des formes de rémunération ou encore de la mobilité du personnel. Donc, par exemple, si on regarde plus particulièrement un caractère, là, on trouvera pas nécessairement dans la même unité les employés de production et les employés de bureau. C'est vraiment deux unités différentes, là, production et bureau, parce que justement, ils n'ont pas nécessairement les mêmes formations, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. C'est vraiment comme deux unités différentes parce qu'ils ont des intérêts différents. Donc, comme j'ai dit, on va séparer ça en deux unités parce que la convention collective qui en suivrait, elle ne serait pas appropriée, elle ne serait pas bien nuancée parce que justement, là, de production et de bureau, ça ne viendrait pas vraiment couvrir les intérêts des deux. Donc, on va vraiment faire deux unités, deux conventions comme ça. Ça va être vraiment très bien adapté, très bien pallié aux unités de négociation et ça va être pas mal plus approprié. Donc, d'où le terme unité appropriée. Et on va vraiment pouvoir venir répondre aux besoins différents des deux groupes que si on formait une seule unité. Ça, c'était pour le premier critère. Le deuxième critère, on va parler de l'histoire des relations dans l'entreprise et les précédents dans les entreprises du même secteur. Donc, on va tenir compte ici, là, c'est quand même un critère quand même simple. On va vraiment tenir compte des autres unités de négociation qui existaient avant, donc un petit peu pour s'inspirer, si on peut dire, et du vécu des relations collectives du travail. Donc, c'est aussi un facteur qui permet de considérer comme unité appropriée une unité dite résiduaire, donc qui subsiste encore un peu, soit groupant les salariés laissés de côté dans la constitution d'autres unités de négociation. Pour le troisième critère, on a le désir manifesté par les salariés en cause. Donc, on va vraiment regarder la volonté des salariés de former une unité de négociation et ça va se mesurer à partir de l'appui dont jouit l'association requérante au sein du groupe proposé. Le quatrième critère, en fait, on va parler ici du critère géographique ou la structure territoriale de l'entreprise. Donc, on va tenir compte ici de l'existence de plusieurs établissements de l'employeur ou de plusieurs lieux de travail distincts sur un territoire plus ou moins grand. Donc, pour le cinquième critère et le dernier critère, on va parler ici de l'intérêt de la paix industrielle. Donc, ici, on veut venir vraiment éviter de créer une multiplicité indue d'unités de négociation. Donc, on va mesurer les conséquences sur l'entreprise de la création d'un certain nombre d'unités de négociation. On va tenir compte de la négociation amenée pour chaque unité de négociation. On va également tenir compte des risques correspondants de conflits pouvant aboutir à une grève ou à un lockout sur un cycle de quelques années et également de l'administration de diverses conventions collectives.
Donc, en gros, si on revient en arrière de quelques pas pour mettre un petit peu en contexte ce que Marlou vient de vous dire, moi, je vous avais présenté que pour être reconnu comme un syndicat, il faut respecter trois conditions. La première, il faut faire une requête. La deuxième, il faut représenter une unité appropriée. Puis, tous les critères que Marlou vient de vous présenter, en fait, c'est ces critères-là qui vont nous permettre d'apprécier puis de regarder dans les faits en prenant en compte ces critères-là, est-ce qu'on considère que ce qu'on a devant nous, c'est une unité appropriée? La troisième condition, en fait, ça va être que il faut que l'association de salariés regroupe la majorité des salariés au sein de cette unité appropriée-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le caractère représentatif. L'association de salariés, il faut qu'elle obtienne l'adhésion de 50 % plus 1 des personnes comprises dans cette unité si elle veut devenir le syndicat représentant de cette unité-là. Le syndicat, une fois que l'association est accréditée, qu'on est le syndicat, qu'on est officiellement le représentant des salariés de l'unité, ben on va avoir des obligations. Donc, une fois que l'association de salariés devient le syndicat attitré, ben il va avoir certaines obligations qui vont apparaître pour le syndicat. Premièrement, il a l'obligation d'une juste et loyale représentation à l'égard des salariés compris dans l'unité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vu que le syndicat, c'est le seul représentant des salariés, bien, c'est lui qui a le monopole de la représentation. Donc, il se doit de faire cette représentation-là de manière adéquate, que les salariés soient membres ou non de ce syndicat-là. Donc, ça, c'est très important. Dans le fond, cette obligation-là a fait en sorte que le syndicat ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation que le syndicat représente, peu importe qu'ils soient membres ou non. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut savoir au niveau des syndicats, c'est que les non-membres, ils vont quand même devoir cotiser, c'est prévu dans le Code du travail, et donc ils ont le droit d'être représentés adéquatement par les syndicats. Donc, la tâche du syndicat de représentation, bien, elle s'applique autant au niveau des membres que des non-membres. Les autres obligations du syndicat, en fait, bien, il se doit d'être efficace. Par exemple, si un syndicat serait inefficace et inactif en négociation, bien, une autre association pourrait faire une demande pour, pour le remplacer. Parce que le syndicat a comme tâche de négocier des conditions de travail, sinon ça peut mener à des conflits de travail qui s'échelonnent. Puis, tu sais, c'est quand même l'emploi des gens qui est en question. Donc, tu sais, c'est important l'efficacité. Il faut qu'il soit proactif. Sinon, ben il peut être remplacé. Sinon, il y a différentes dispositions dans le Code du travail qui vont imposer d'autres obligations qu'on appelle accessoires. Donc, qui sont des obligations que le syndicat doit remplir, mais qui ne sont pas nécessairement les principales. Puis, dans le fond, ces obligations-là, ça sert simplement à garantir l'exercice démocratique du pouvoir de représentation. Donc, par exemple, le syndicat doit divulguer à chaque année ses états financiers. Il faut que le syndicat informe le ministre du Travail du déclenchement d'une grève, etc. Des exemples dans le genre.
Exactement. Donc ça, c'était pour la deuxième capsule sur le syndicat. On vous a vraiment dit en gros là comment c'était formé, c'était composé, quoi que ce soit, et qu'est-ce qui faisait justement d'un syndicat une association qui est reconnue, donc qu'elle soit accréditée et qu'elle ait une unité appropriée en prenant en considération des critères établis par la jurisprudence et, comme Maud, tu viens de le dire, qui doivent regrouper la majorité des salariés au sein de cette unité. Donc, c'était tout pour la deuxième capsule. Merci énormément de nous avoir écoutés. Ça nous fait toujours plaisir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième capsule sur les rapports collectifs en matière de droit du travail dans le cadre du condensé juridique. Donc, aujourd'hui, on va discuter en fait de ce qui est central, je dirais, au rapport collectif en matière de droit du travail, c'est-à-dire la convention collective. Donc, comment la capsule va se dérouler? En fait, on va commencer par vous expliquer le déroulement de la négociation d'une convention collective, comment on arrive en fait à la fin à cette entente-là. Puis après, on va vous parler plus en général de ce qu'est la convention collective puis des informations pertinentes rattachées à ce concept-là.
Exactement, Maud. Donc, comme tu as dit, tu as très bien dit, là, la négociation de la convention collective, c'est vraiment essentiel pour les rapports collectifs de travail. C'est vraiment comme la raison d'être de vraiment cette capsule-là. C'est vraiment l'élément central. Là. C'est les rapports collectifs de travail, ça vise vraiment à conclure une entente là écrite. Là. C'est vraiment un critère qui est important qu'elle soit écrite relative aux conditions de travail entre, on va dire, l'association des salariés, donc le syndicat et l'employeur. Donc, l'objectif ultime du code de travail, c'est la conclusion de la convention collective. On l'a dit en parlant du code du travail, on le répète, on est rendu dans la convention collective, c'est vraiment l'élément central ici. On comprend que c'est important de voir comment va s'amorcer cette étape-là, donc vraiment celle de la négociation, et ensuite on va regarder les conséquences, là. C'est vraiment intrinsèque de regarder ça, c'est essentiel de regarder justement pas juste la négociation, pas juste la convention, mais également qu'est-ce qui va se produire par la suite, là. Qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence, donc à savoir la possibilité d'avoir un conflit de travail et que ça survienne, et ça on va parler pour la dernière capsule avec l'arbitrage de grief. Donc, la phase de la négociation, ça va débuter par la réception d'un avis de négociation. On va le répéter quand même une couple de reprises. Là, vraiment, c'est la réception de l'avis de négociation qui va vraiment entamer les procédures de négociation. Cet avis-là peut être expédié par le syndicat ou par l'employeur. Que ce soit l'un ou l'autre qui l'expédie à son vis-à-vis, si on peut dire, cet avis-là doit prévoir un délai d'au moins 8 jours entre la réception et la date à laquelle les parties se rencontreront pour débuter la phase de négociation. Le code précise quand même que la phase de négociation débute par la réception de cet avis, comme je l'ai dit tantôt. Donc, à partir du moment où l'autre partie a reçu cet avis-là, la phase de négociation doit débuter nécessairement. Les parties vont vraiment devoir à ce moment-là se rencontrer et négocier à ce moment-là la convention collective. Il ne faut quand même pas perdre de vue que lors de la négociation de la convention collective, la bonne foi est de mise. Comme toujours, sauf que là, on va en parler un petit peu plus tantôt. Maud, tu vas en parler de la bonne foi. Essentiel, c'est nécessaire pour la négociation de la convention collective, que ce soit de l'employeur ou du syndicat et des salariés. Donc, ça peut être pertinent quand même de préciser ce concept de négociation de bonne foi. Là, ça s'impose pas comme l'obligation de s'entendre. Là, c'est pas à cause que je m'entends pas sur ce que tu me dis que je suis de mauvaise foi. Là, c'est juste une règle de gros bon sens. Là, si je m'entends pas, c'est juste que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ça veut pas dire que je suis de mauvaise foi. C'est la bonne foi. Ça impose juste l'obligation de s'asseoir à la table et d'avoir une ouverture d'esprit dans le but d'en arriver à une entente. Donc, l'objectif n'est pas de contraindre les parties à s'entendre, mais vraiment de les contraindre à faire une démarche de bonne foi dans le but d'arriver vraiment à une entente, à ce que la négociation se fasse de bonne foi et se fasse vraiment de manière ouverte.
Oui, donc si tu me permets, Marie-Lou, je donnerai quelques exemples de ce qu'est la mauvaise foi.
Bien
parce
sûr.
Que dans le fond, là, c'est facile. Ben, ça a l'air simple comme ça. On dit, bon, tu utilises ton gros bon sens, pas obligé de s'entendre, faut juste faire preuve d'ouverture d'esprit. Mais dans les faits, c'est quoi des exemples que quelqu'un ait de mauvaise foi? Ça peut être difficile de le savoir. Donc, voici quelques exemples qui peuvent parfois illustrer un employeur de mauvaise foi. Donc, tu sais, c'est pas des règles absolues, c'est vraiment des questions de faits puis de situations en l'espèce. Donc, le refus de reconnaître dans un écrit une entente qui est clairement intervenue, ça peut être considéré comme la mauvaise foi. Le fait d'imposer dès le début de la négociation des éléments en disant qu'ils sont non négociables, ben, ça peut être de la mauvaise foi parce que le but, c'est de négocier. Si tu arrives déjà en disant que toi, tu n'es pas prêt à négocier,
ouais,
ça part mal. Sinon, ben, le refus de formuler des contre-propositions aussi, ça peut être considéré comme la mauvaise foi. Dans le fond, c'est tout ce qui fait un petit peu tomber à l'eau la négociation comme position. Si jamais un employeur ou le syndicat ne négocie pas de bonne foi, il peut être pénalisé. Il est passible d'une amende. Le montant va varier dans le fond entre 100 et 1000 $ pour chaque jour que va durer l'infraction. Puis des fois, des conflits de négociation, ça peut être assez long. Donc, ça peut quand même donner des montants assez élevés. Mm-hmm. Si jamais il y a une contravention à cette obligation de négocier de bonne foi, en plus, le TAT, donc le Tribunal administratif du travail, en vertu de ses pouvoirs réparateurs, pourrait intervenir afin d'imposer des sanctions à la partie récalcitrante, donc que ce soit l'employeur ou le syndicat. Donc, pour revenir à ce que Marie-Lou disait, à partir de la réception de l'avis, les parties vont débuter la phase de négociation. Puis cette phase-là de négociation est importante parce qu'elle permet de déterminer à partir de quelle date le syndicat ou l'employeur pourront déclencher des moyens de pression. Ces moyens de pression-là, on va en parler plus en profondeur dans la prochaine capsule. Mais en fait, le code interdit la grève autrement que lorsqu'elle est permise. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de grève illégale. Il y a des cas dans lesquels on a le droit de faire la grève, puis si on fait la grève en dehors de ces cas-là, ben c'est interdit, donc c'est illégal. Dans le fond, la grève va être permise 90 jours après la réception de l'avis de négociation. Donc, c'est pour ça que cette date-là est très importante. Le droit de grève ou de lock-out va être acquis 90 jours après l'avis. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'avis de négociation, c'est important parce que c'est sa réception qui fait partir le point de départ un petit peu du chronomètre pour le calcul de l'acquisition du droit de grève, qui est un moyen de pression qu'on voit très souvent en matière de négociation de conventions de collectives. Donc, pour plus d'informations sur la grève et le lock-out, ben, on vous invite à aller écouter notre prochaine capsule.
Oui, exactement. Donc là, on a parlé vraiment de la négociation de la convention collective, mais on va parler plus particulièrement maintenant de la convention collective en elle-même. Donc, au terme du processus de la négociation, les parties vont avoir conclu la convention collective. Et le code impose certaines conditions à la convention collective, notamment justement qu'elle soit écrite, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Donc, qu'est-ce que peut contenir la convention collective? C'est quoi la couleur qu'elle peut avoir? Là? Cette convention-là, elle peut contenir toute clause visant une condition de travail qui n'est ni prohibée par la loi ni contre l'ordre public. Donc, on laisse quand même, on voit ici, on laisse une grande liberté de manœuvre aux parties. Un exemple de clause qui serait prohibée par la loi, par exemple, ce serait une clause qui comprend moins de droits que ce qui est prévu par la loi sur les normes du travail. On en a discuté dans d'autres de nos capsules là, sur la loi sur les normes du travail. Là. Par exemple, cette loi-là indique que les heures supplémentaires doivent être payées par le taux qu'on appelle le temps et demi. Donc, la convention collective, elle ne pourrait pas prévoir que le temps supplémentaire serait payé en temps simple parce que ça donne moins de droits que ce qui est prévu par la loi. Donc là, c'est une nuance qui est quand même très importante. Là. C'est quelque chose qui semble évident. Mais c'est efficace quand même pour montrer cet exemple-là. Là. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des concepts un peu plus complexes que ça. La convention collective, elle a généralement une durée minimale d'un an et elle n'a pas vraiment de durée maximale, sauf en ce qui a trait à la première convention collective qui ne peut pas dépasser 1-3 ans. Donc, il y a quelques exceptions dans des lois particulières, mais ça, on n'en parlera pas nécessairement. Là. Donc, la convention collective, c'est vraiment l'acte juridique bilatéral qu'on peut dire. Donc, c'est les deux parties qui ont pu la négocier justement, comme on en a parlé tantôt, à comprendre toutes les clauses qui ne seraient pas prohibées par la loi, comme on l'a dit, ou par l'ordre public et qui est contenu dans un document écrit qui est la convention collective. Pour ce qui est du dernier élément, la convention collective, ça va lier les employés actuels et futurs qui sont compris dans l'unité de négociation visée par la convention. Donc, par exemple, si la convention entre en vigueur le 5 avril 2020, elle va lier les employés qui sont visés et qui ont été engagés comme avant le 5 avril, mais également ceux qui sont engagés après le 5 avril et qui vont également être visés par la convention. Donc, si on peut dire, la convention collective, c'est le fruit de la négociation entre une association accréditée et un employeur. Et cette convention-là est investie d'un important pouvoir réglementaire à l'égard de l'ensemble des conditions de travail. Donc, sous réserve de rares exceptions qu'on ne parlera pas, là, l'application et l'interprétation de la convention collective relèvent exclusivement de l'arbitrage, en fait, de l'arbitre de grief qu'on va parler dans pas la prochaine capsule, mais elle d'après, on va vraiment dédier toute une capsule à l'arbitre de grief qui va vraiment avoir la responsabilité d'interpréter la convention collective.
Oui, donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Dans le fond, c'est cet arbitre de grief-là qui va se charger des problèmes qui résultent de l'interprétation de la convention collective. Dans le fond, généralement, en droit général, si je peux dire, si on a de la difficulté à interpréter une entente, un contrat, puis que ça cause des problèmes, on va aller devant les tribunaux. Mais en matière de travail, c'est pas du tout ça qui va se passer. Il faut aller voir l'arbitre de grief. Dans le fond, faire un sommaire un peu de ce que Marie-Lou a dit, ben la convention collective, c'est une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou association d'employeurs. Donc, par cette définition-là, on comprend diverses choses. Premièrement, ben, le contenant de cette entente-là, donc l'entente doit être écrite. Deuxièmement, son contenu, ça porte sur les conditions de travail. Et troisièmement, les parties impliquées, l'association accréditée et l'employeur. Il n'y a aucun modèle qui est imposé pour la convention collective. Donc, on comprend que les parties jouissent d'une très grande liberté là, dans la détermination du contenu de la convention collective. Une fois que la convention est conclue, ben, ça va être considéré comme la loi des parties. Tant qu'elle respecte évidemment les limites de la loi et de l'ordre public. Mais en fait, c'est ça. Ça va considérer la loi entre. Ça va avoir la force de loi, en fait, entre les parties. Donc, la convention collective va avoir un espèce d'effet pacificateur, si on peut dire, parce que pendant sa durée, ben, toute grève, tout ralentissement d'activité ou tout lock-out vont être interdits. S'il y a un différend au niveau des employés visés, ben, vu que la grève, le lock-out, le ralentissement des activités est interdit, ben, il ne sera pas possible d'aller en grève pour manifester leur désaccord. Ils vont devoir se tourner encore une fois vers qui? Vers l'arbitre de grief. Mm-hmm. Donc, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'arbitre de grief, puis c'est pour ça qu'on a réservé une capsule complète à ce sujet-là. Donc, cependant, t'es en attendant que vous écoutiez notre prochaine capsule, bien, sachez que l'arbitre de grief, il va prendre le relais puis il va assurer le maintien de la règle de droit dans les rapports juridiques qui lient les parties et les salariés. Donc, dans le fond, il va analyser la convention collective, l'entente qui a été conclue, puis c'est lui qui va dicter un petit peu ça va être quoi la règle à suivre à ce moment-là. Donc, l'objectif, en fait, la convention collective a un objectif très large. Ça peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail. Donc, on s'entend que ça peut inclure beaucoup, beaucoup de clauses différentes. Il n'y a aucun cadre qui est imposé, aucune disposition qui est minimalement requise, avec les seules limites qu'on a mentionnées puis qui sont classiques de la conformité avec l'ordre public puis du respect de la loi. Ben, la convention collective, en principe, c'est un instrument qui est très, très malléable. Elle peut traiter des aspects les plus variés de la relation d'emploi, que ce soit l'organisation du travail, puis le temps qui est consacré, l'ensemble des questions relatives à la rémunération, à la retraite, les relations entre les parties signataires, la convention collective, c'est vraiment très large. Donc, on comprend en fait que la convention collective, ça donne vraiment un grand espace aux parties pour créer, à l'intérieur de cette convention-là, des normes qui vont être en harmonie avec l'entreprise qui est visée par l'accréditation puis les besoins spécifiques de ses salariés. Dans le fond, il y a peu de conditions au niveau de la forme là, de la convention pour qu'elle soit valide puis efficace, outre le fait qu'elle doit être écrite, qu'on l'a mentionné plusieurs fois. Ben, si on est au Québec, il faut qu'elle soit en français. Puis, il est important aussi de mentionner en fait que lorsque la convention de collective est expirée, ben, les conditions de travail qui sont stipulées, ben, ils continuent de régir les parties tant que le droit de grève de l'accord n'est pas exercé. Puis aussi, c'est possible de prévoir dans une convention collective que, ben, on va maintenir les mêmes conditions de travail jusqu'à la signature de la prochaine convention collective. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir, mais ça ne va pas de soi. Donc, dans le fond, on comprend qu'un but de convention collective aussi, ben, c'est aussi de garantir un certain élément de stabilité dans les relations de travail.
Ben oui, nécessairement. Donc, écoutez, c'était tout pour la troisième capsule sur la négociation de la convention collective et la convention collective. Je sais pas pour vous, mais moi, au début, ça m'intéressait pas tant l'affaire des syndicats puis des rapports collectifs parce que je suis à l'université en troisième année de bac puis je voyais pas trop pourquoi c'est important. Mais je suis certaine que si à un moment donné, vous avez un problème dans votre emploi futur de vraiment gros job là, et que vous avez un problème par rapport aux rapports collectifs, la négociation des conventions collectives ou quoi que ce soit, vous allez vous rappeler de nous parce que c'est quand même, moi, je trouve ça quand même particulièrement intéressant puis important là. Donc, oubliez-nous pas quand vous allez commencer à avoir des problèmes au niveau de vos emplois futurs là. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au condensé juridique en matière de droit du travail. Aujourd'hui, Marie-Lou et moi, on va vous parler plus précisément de la grève et du lockout. C'est des termes que je suis certaine que vous avez déjà entendus, mais des fois, c'est pas très clair en fait de savoir qu'est-ce qui est vraiment en question, qui a pris quelle décision, etc. Donc, c'est ça le but de la capsule aujourd'hui, de vous en apprendre un petit peu plus sur la grève et le lockout pour que si jamais... On l'espère pas, mais si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, ben vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, puis que si jamais vous voyez des cas passer dans les médias ou peu importe, ben maintenant vous allez savoir de quoi il est question.
Exactement, Maud. Donc en fait là, vous allez vraiment voir souvent ça dans les médias sociaux parce que c'est quand même des moyens de pression qui sont particuliers là. La plupart du temps, c'est quand même particulier comme situation. Puis c'est vraiment des moyens de pression qui surviennent lors de la négociation des conventions collectives. C'est pendant ce processus-là. Donc la grève, ça se définit comme la cessation concerté, si on peut dire, de travail par un groupe de salariés. Et ce droit de grève-là, en fait, c'est protégé par la Constitution. Donc, la cessation de travail, elle peut se réaliser par l'abandon du poste de travail, par l'absence à l'heure habituelle ou par présence inactive, vraiment comme inactif, là, tout court, là, comme du travail, là. Par contre, là, on peut parler aussi d'un ralentissement d'activité. Ça, par contre, ça peut pas constituer une grève. On va parler comme l'exemple de la grève du zèle. Là. Les grèves tournantes, comme on peut dire, sont toutefois permises. Là. C'est-à-dire que c'est des grèves où il y a des arrêts sporadiques du travail, là, si on peut dire. Là. Puis pour que le critère de cessation du travail soit respecté et qu'il s'agisse bel et bien d'une grève, il faut que cette cessation-là n'ait pas été autorisée par l'employeur. Donc ça, c'est vraiment comme important. Là. Et un deuxième critère, c'est celui de la volonté collective. Ça peut être une seule personne qui fait une grève. Là. C'est vraiment l'effet de groupe qui est important. Là, si on veut quand même passer un message. Là. Il faut donc que cette cessation-là du travail se fasse de manière concrète et ce qui n'empêche pas le fait qu'une grève puisse être spontanée. Donc, Il faut simplement que la grève résulte d'une décision collective et non d'une somme de petites décisions individuelles. Et le déclenchement d'une grève nécessite quand même une autorisation des membres de l'association accréditée, donc du syndicat. Quelque chose de particulièrement important ici, là, c'est que tous les salariés ont le droit de grève, sauf les policiers, les pompiers, les agents de la paix, entre autres. Là. Maud, tu vas nous en parler plus à la fin de la capsule. Là. On va nous dire des exemples vraiment. Là, puis eux, ils ont des situations particulières à cause que ils représentent quand même, tu sais, c'est les agents de la paix. Là, ils ont des emplois qui leur permettent moins de justement faire de la grève là, parce que sinon, ce serait un petit peu l'anarchie après dans les rues. Là. Donc, si on se rappelle un peu avec le port de pantalons d'armée de service par les policiers il y a quelques années, là, mais ça, bon, tu vas nous en parler un petit peu plus tantôt également. Là. Donc, ça, c'est pour la grève. Le lockout, quand on parle de lockout, c'est vraiment plus le refus de l'employeur de fournir du travail à un groupe de salariés dans le but de les contraindre à accepter des conditions de travail. Donc, c'est à noter que le lockout est aussi interdit pour les policiers, pompiers, certains salariés des services publics, comme plus essentiel, si on peut dire. Contrairement à la grève, le lockout, en fait, résulte d'une décision individuelle, soit la décision patronale. Donc, pour qu'il s'agisse bel et bien de lockout, il faut que cette décision-là de l'entreprise vise à faire accepter certaines conditions de travail aux salariés. Donc, c'est pour ça que c'est au terme de la négociation collective qu'on fait ce genre de pratique-là, donc les grèves et le lockout. Donc, ces deux situations-là, le droit de grève et de lockout, sont acquis seulement s'il n'y a pas de convention collective en vigueur. Donc, autrement, là, il y a une grève si c'était pas pendant que si c'est pendant que la convention collective est en vigueur, la grève va être illégale. Donc, faut vraiment pas que la convention collective soit en vigueur. Le pitage ou le boycottage sont des façons d'exprimer la grève. Là. On en a quand même vu beaucoup dans les médias sociaux. Là. Le pitage, c'est souvent comme une sous forme de marche symbolique devant les locaux de travail là, pour sensibiliser la population. Et le boycottage, ça consiste un peu plus à décourager la population à se procurer des biens ou des services de l'employeur parce qu'on veut vraiment comme montrer le mécontentement des employés et l'association accréditée. Contrairement à la grève, le boycottage peut aussi impliquer des tiers au conflit comme des distributeurs ou des revendeurs. Bien évidemment, il existe quand même des limites à l'appel au boycottage et ces deux actions-là peuvent être entreprises pendant la grève se fondent juridiquement sur la liberté d'expression.
Donc, dans le fond, la grève, le lockout, ça reste des sujets qui sont quand même complexes. Ça veut dire qu'en fait, il y a un conflit au niveau des conditions de travail. Pas nécessairement tout le monde est d'accord. Les salariés sont pas satisfaits des conditions de travail qui leur sont offertes. Mais des fois, on s'entend que c'est pas tous les salariés qui seront nécessairement du même avis. Puis là, ça peut causer d'autres problèmes s'il y a des salariés qui veulent faire la grève, d'autres salariés qui peuvent pas faire la grève, etc. Donc, il existe au Code du travail des dispositions pour protéger les salariés qui font grève. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les dispositions anti-briseurs de grève. Donc, c'est un moyen, dans le fond, d'empêcher l'employeur d'utiliser du personnel de remplacement pendant la durée de la grève pour exécuter le travail des salariés qui font la grève. Donc ça, dans le fond, ça a pour but de garantir l'efficacité des moyens de pression qui sont utilisés par les salariés parce que les salariés font la grève pour essayer de négocier des conditions de travail. Puis ils essayent de faire pression sur leur employeur. L'employeur, s'il veut engager d'autres gens pour faire le travail pendant ce temps-là,
ce serait chier un peu, là.
C'est ça. Le moyen de pression, il n'existe plus vraiment. Donc, les salariés seraient vraiment perdants de ce côté-là. Donc, si jamais vous n'avez pas entendu parler des dispositions anti-briseurs de grève, vous avez peut-être entendu parler des dispositions anti-SCAB en anglais. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Le but de ces dispositions-là, c'est de garantir l'efficacité des moyens de pression utilisés par les grévistes. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir un arrêt de la production totale pour l'employeur. Par exemple, il pourrait continuer sa production avec des cadres qui ont été embauchés avant le début de la phase de négociation. Ça, c'est bien important. Ou si jamais il y a des bénévoles qui veulent aller bénévolement donner de leur temps pour aider l'employeur avec sa production, c'est légal. Il est aussi interdit d'utiliser les services de salariés qui proviennent d'un autre établissement dans l'établissement en grève. Donc, si jamais l'employeur a plusieurs établissements, il ne pourrait pas prendre les employés d'un établissement pas en grève, les envoyer à l'établissement qui est en grève, parce que justement, ben, ça viendrait un petit peu ruiner l'efficacité des moyens de pression des grévistes. Par contre, il est possible d'utiliser les salariés, d'utiliser les services de ces autres salariés si le travail est exécuté à l'extérieur de l'établissement en grève. Donc, il y a une petite nuance à faire là. Par contre, ces salariés-là ne peuvent pas être des cadres des autres établissements de l'employeur. Il est aussi interdit d'utiliser de la main-d'œuvre extérieure. Ça veut dire qu'en fait, si tes salariés sont en grève, tu n'as pas le droit d'aller engager de la nouvelle main-d'œuvre pour les remplacer. Mm-hmm. Encore une fois, ce qui ne serait pas super dans un contexte de moyens de pression pour la négociation d'une convention collective. Donc, une fois que la grève ou le lock-out est terminé, le retour au travail peut se faire. Il y a certaines sanctions qui peuvent viser les personnes qui ont déclenché une grève ou un lock-out illégalement ou les personnes même qui y ont participé. Ça peut même être des sanctions pénales qui vont prendre la forme d'amende. Puis le montant, en fait, de l'amende va varier en fonction de l'identité de la personne. Ce qu'on veut dire par identité de la personne, c'est un petit peu son rang dans l'entreprise. Puis ça va varier aussi en fonction de la durée de l'infraction. Enfin, il est à noter que ben, certains services publics doivent maintenir des services essentiels, même en cas de grève. Donc, c'est souvent ces cas-là qu'on va plus entendre parler dans les médias. Donc, j'ai pensé, avant de conclure cette capsule-là, de vous donner peut-être quelques petits exemples de grève ou de lock-out qu'on a vu dans l'actualité des dernières années. Donc, Marie-Lou en a parlé. On se souvient du cas des policiers, en fait, qui portaient des pantalons de toutes les couleurs, des espèces de pantalons d'armée pendant qu'ils étaient en service lorsqu'ils étaient en grève. En fait, ils n'ont pas le droit de faire la grève, donc ils n'ont pas le choix de faire preuve un petit peu d'ingéniosité pour trouver d'autres moyens de pression. Donc ça, c'était leur moyen un petit peu de se faire voir par la population puis de faire comprendre aux gens qu'il y avait un conflit de travail, en fait. Sinon, on a vu aussi dans les dernières années les ambulanciers avec des collants sur les camions, en fait. Puis, tu sais, on comprend que ces salariés-là doivent faire preuve d'ingéniosité parce que ça serait impensable qu'on se retrouve avec pas d'ambulanciers, pas de policiers pendant plusieurs semaines dans un contexte de conflit de travail. Ça serait pas très bien pour la société en général.
Non.
On a vu des grèves de professeurs à l'université il y a quelques années pour peut-être nos auditeurs qui étaient... étudiant à l'université à cette époque, il n'y a pas si longtemps, il y a l'année dernière, je pense.
C'est l'année dernière, c'est ça, en automne?
Je pense que oui, il y avait eu la grève des chargés de cours à l'Université de Sherbrooke. Ouais. C'est sûr qu'on en a entendu parler, on a tous été touchés par ça. Puis dans le fond, ça illustre un point qui est important de mentionner au niveau de la grève, c'est que ces grèves-là peuvent avoir des impacts sur les tiers, puis c'est un petit peu aussi pour ça que c'est un moyen de pression. Dans le cas des chargés de cours, par exemple, il y a des étudiants qui voulaient avoir leur cours, mais les chargés de cours, eux, ils voulaient avoir les conditions de travail. Donc, c'est un petit peu une pression sur l'employeur pour essayer de faire avancer, en fait, la négociation. Je pensais vous donner un exemple de lock-out. C'est un exemple qui remonte à assez longtemps. Ça remonte à 2011, donc il y a 10 ans. Mais c'est un exemple qui est frappant puis qui montre que c'est des conflits de travail, c'est des situations qui sont difficiles puis qui peuvent s'échelonner dans le temps. Là, on parle quand même de l'emploi de certaines personnes. Donc, au Journal de Montréal, en 2011, il y a eu 764 jours de lock-out, donc à peu près 2 ans de lock-out qu'il y a des gens qui ont été privés de travail, dans le fond, de la part de leur employeur. Donc, c'est des situations qui sont assez sérieuses. Puis, un dernier point que je pense qu'il est important de mentionner dans cette capsule, vu qu'on s'adresse à notre communauté étudiante, on se rappellera tous des grèves étudiantes il y a quelques années. Maintenant, il y a des grèves étudiantes pour le climat aussi qu'on entend de plus en plus parler. Donc, on a fait le choix volontaire de ne pas aborder ces sujets-là, pas parce que c'est pas intéressant, puis clairement, ça s'adresse directement à notre public cible, mais c'est juste parce que, oui, on utilise le même mot « grève », mais vu qu'en étant étudiant, on n'est pas en contexte de relation de travail, puis ça, c'est vraiment un régime qui est tout à fait différent, qui est un peu flou, puis tout ça. Donc, on a fait le choix de ne pas s'aventurer dans cette avenue-là qui est un petit peu plus une zone grise, mettons.
C'est ça, c'était pas par manque d'intérêt, bien au contraire, là, c'était juste par on a dû faire des choix par rapport au temps qu'on avait, par rapport au sujet qu'on avait. Ben, somme toute, là, c'est quand même une capsule qui est particulière particulièrement intéressante. C'est quand même fou de se dire qu'on veut protéger quand même les employés comme et vraiment les associations accréditées comme les syndicats pour comme leur permettre d'avoir des moyens de pression, là, les moyens comme les anti-briseurs de grève, là, quand la grève est légale, c'est quand même particulier qu'on veut protéger ce droit de pression-là. Là. Donc, c'était tout pour cette quatrième capsule qui parlait des grèves et des lockouts. Là. Donc, je vous remercie encore de nous avoir écoutés. C'était super le fun encore de vous parler de vos droits et je vous souhaite une excellente semaine.
Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au condensé juridique cette semaine en droit du travail. Aujourd'hui, on conclut notre semaine en droit du travail avec une capsule sur la résolution de conflits. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des conflits en matière de travail? C'est quoi les différentes avenues qu'on peut explorer? Donc, c'est une capsule qui va être un petit peu plus longue que les précédentes, mais qui va être très intéressante puis aussi pertinente pour vous dans un contexte où c'est vraiment Bien, on vous apporte des solutions, dans le fond, si jamais vous avez un problème, quoi faire. Donc, peut-être aller vous prendre un petit café, ouais, une petite tasse de thé.
Juste s'asseoir chaudement dans votre sofa ou quoi que ce soit, là, parce que ça va être intéressant, mais quand même un peu plus long que les autres capsules qu'on avait. Donc, merci Maude pour cette magnifique introduction. Là. Donc, c'est ça, on va parler aujourd'hui de résolution de conflits. Et pour justement, on peut pas parler de résolution de conflits sans mentionner l'arbitrage de grève. On en a parlé quand même pendant toutes les autres capsules. On vous a dit qu'on allait revenir là-dessus, puis on vous a pas oublié parce que c'est vraiment très important. Là, on a effleuré à chaque fois, puis on était comme, oh, on va vous garder ça pour la dernière capsule parce que c'est vraiment le gros morceau qu'on voulait vous parler. Donc, on va commencer avec l'arbitrage de grève. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la convention collective peut quand même donner prise à un contentieux entre les parties. Donc, entre le syndicat puis l'employeur. Donc, même pas le syndicat, mais aussi les membres. Là, ça peut, les non-membres, je veux dire. Là, donc, ça peut vraiment donner lieu à un contentieux. Là, et ça se peut que les parties ne vont pas interpréter de la même manière le contenu de la convention collective. Donc, c'est pour ça que le Code va prévoir un mécanisme pour le règlement de toutes ces mésententes-là, si on peut dire, relatives à la convention et à son interprétation. Donc, c'est ici qu'on va parler d'arbitrage de grief. Vraiment, c'est la petite personne qui va venir interpréter et ça va être son rôle en tant que tel. Elle a compétence exclusive pour entendre et disposer de tous les litiges naissants quant à l'interprétation et à l'application de la convention collective. Donc, l'arbitre de grief est généralement une personne à l'extérieur de l'entreprise et qui est choisie par les parties pour les entendre et disposer du grief. Donc, il s'agit d'un processus quasi-judiciaire. On n'est pas devant les tribunaux, là, c'est vraiment un arbitre qui est là. C'est pour ça qu'on va parler de quasi-judiciaire, c'est que c'est pas judiciaire. Et où les parties seront convoquées en audience, ils vont faire leurs preuves et l'arbitre qui est un tiers impartial, va prendre une décision pour trancher le litige qui existe entre les parties. La décision de l'arbitre est finale et sans appel et cette décision-là va lier les parties. Elle va demeurer quand même sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, mais il y a quand même une certaine différence qui est bien établie en jurisprudence par la Cour supérieure envers l'arbitre de grief, la décision de l'arbitre de grief. L'arbitrage de grief, c'est plutôt imposé par la loi et ça exclut d'office, à cause de sa grande portée, toute autre juridiction judiciaire ou administrative. Si sa source, on peut dire qu'elle est atypique, le mécanisme d'arbitrage de grief, étant donné que ça repose largement sur l'expertise des décideurs retenus et de son caractère souple et informel, ça s'avère être en ligne directe avec la philosophie d'autonomie et de décentralisation du système des rapports collectifs du travail. Donc, ça, c'est quand même un concept qu'on apprend en droit et moi, je trouve particulièrement intéressant, là, ce principe-là d'autonomie et de décentralisation. C'est quand même fou qu'on va donner autant de pouvoir à une personne. C'est pas un tribunal et on va quand même, la Cour supérieure va quand même faire confiance à la décision de cette personne-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de décentralisation du système des rapports collectifs. On va vraiment, comme, donner, je pourrais pas dire un libre champ à l'arbitre de grief, mais on va quand même donner une confiance très grande à son expertise et c'est pour ça qu'on parle justement de décentralisation. Il y a même la Cour suprême du Canada qui a reconnu récemment que cet important principe en rappelant que l'arbitre est maître de la preuve et de la procédure lors de l'instruction d'un grief. Donc, ça lui appartient d'appliquer la règle de la pertinence au fait du dossier et selon ce qu'il considère en fait utile pour trancher le grief. Dans cette affaire-là, la majorité de la Cour suprême estime que ça revient à un arbitre de trancher au cours de l'audience la pertinence du contenu des délibérations tenues à huis clos par le comité exécutif d'un employeur et d'autoriser l'interrogatoire des membres de ce comité. C'est juste pour faire un petit résumé en fait de c'était quoi l'affaire en fait de la Cour suprême. L'arbitre est investi du pouvoir d'interpréter et d'appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où c'est nécessaire de le faire. Donc, pour qu'il puisse vraiment faire une décision bien éclairée. Donc, avant d'être soumis à l'arbitrage, il y a un grief, qu'il soit individuel ou collectif, syndical ou même patronal, doit respecter les étapes d'une procédure interne qui est quand même fixée par les parties de manière libre à la convention collective. Le Code du travail prescrit un délai de prescription légale de 6 mois à compter du jour où la convention collective a pris naissance pour les droits et recours qui naissent d'une convention collective. Donc, dans certains cas, la convention collective prévoit une liste d'arbitres et à qui seront confiés les griefs survenant pendant sa durée. Là. Mais ça se peut aussi que les parties y décident du mécanisme d'échange de nom d'arbitre ou qui décident eux-mêmes là, comme, qui va trancher le litige, mais c'est tel que tel. En cas de désaccord entre les parties relativement au choix de l'arbitre, l'une ou l'autre des parties en fait, peut demander au ministre du travail de nommer une personne qui va agir à ce titre-là et cette détermination-là sera effectuée à partir de la liste confectionnée annuellement par le ministre. Donc, c'est vraiment lui qui va venir substituer son opinion et qui va vraiment comme donner un arbitre aux parties.
Donc, une fois que l'arbitre a été saisi d'un grief, que l'arbitre est choisi, etc., ben, il va revenir à l'arbitre de convoquer les parties pour procéder à l'audition du grief. En principe, l'arbitre doit procéder en toute diligence à l'instruction du grief. Donc, cette diligence-là, on peut toutefois pas faire abstraction des facteurs externes qui ont un effet, veux, veux pas, sur la manière de rendre la décision de l'arbitre. Donc, c'est au niveau des disponibilités simultanées de l'arbitre, des procureurs, des représentants des parties, des témoins experts, etc. Donc, on comprend qu'il y a des facteurs externes aussi sur lesquels on n'a pas nécessairement toujours le contrôle. Une avenue de résolution de conflit qui est assez intéressante, c'est la conférence préparatoire. En fait, c'est avant le début de l'audition du grief, l'arbitre peut tenir avec les représentants des parties une conférence préparatoire. Donc, c'est pas obligatoire. Mais si cette rencontre-là est bien exploitée par les différents intervenants, ben, ça peut vraiment augmenter considérablement l'efficacité de l'audition. Donc, c'est un moment qu'on va prendre pour s'asseoir, pour expliquer un petit peu c'est quoi le problème, les attentes de chacun, etc. Donc, ça peut vraiment être un mécanisme qui est intéressant. Un fait qui est quand même intéressant, c'est que l'audition de tout grief est publique. Exceptionnellement, comme il existe toujours des exceptions, une partie ou la totalité de l'audition pourrait être à huis clos, mais c'est généralement n'importe quelle audition de grief est publique. L'audition va aussi très souvent se dérouler à proximité des lieux de travail, puis c'est là un petit peu des objectifs de l'arbitrage. En fait, c'est plus accessible pour les parties. L'arbitre doit donner aux parties à la convention collective ainsi qu'à tout salarié intéressé, ce qui est intéressant, l'occasion d'être entendu. Donc, le salarié intéressé qui voudrait être entendu, ben, il a le droit d'être convoqué par écrit pour la tenue de l'audition et d'y participer. Il y a aussi des tiers qui peuvent demander d'intervenir dans le cadre de l'arbitrage d'un grief. Dans ce cas-là, ben, les arbitres vont accueillir ces demandes qui pourraient provenir, par exemple, d'autres syndicats lorsque l'issue d'un arbitrage peut avoir un effet important à leur égard ou de personnes dont le droit à l'honneur, à la dignité, à la réputation pourrait être affecté en fait par la sentence arbitrale. À moins qu'il existe une entente expresse entre les parties, une sentence arbitrale va avoir un effet juridique juste entre cette partie-là, puis juste ces dernières-là peuvent assurer le suivi et en principe en demander la révision judiciaire. Donc la révision judiciaire, en fait, c'est d'aller devant un vrai tribunal, entre guillemets, pour revenir sur la décision rendue par l'arbitre. En principe, les parties peuvent définir dans la convention collective des règles relatives à la procédure et au mode de preuve applicable à l'audition d'un grief. Il va revenir alors à l'arbitre de déterminer la procédure et le mode de preuve qui juge approprié en se fiant, encore une fois, à son interprétation de la convention collective. Mais par contre, la discrétion en cette matière-là n'est pas absolue, on y pense bien. En général, les arbitres vont s'inspirer beaucoup des règles usuelles qui vont être applicables en matière civile, donc devant les tribunaux civils, donc la procédure contradictoire qui veut dire que chaque partie a le droit d'exposer son point de vue et d'être entendue, puis les modes de preuve aussi, qu'est-ce qui est admissible en preuve ou pas, etc. Donc, l'importance et la complexité grandissante des droits soulevés en arbitrage, ça demande un traitement équitable, fonctionnel et prévisible de ceux-ci. ce qui laisse quand même un espace assez limité pour l'énoncé de règles de preuve et de procédures qui seraient totalement du jamais vu, original. Donc, oui, il y a de la flexibilité, mais dans les faits, on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi. Pendant l'audition, ben, l'arbitre il pourrait visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi, si c'est pertinent. Il pourrait assigner un témoin, il pourrait exiger recevoir un serment de ce témoin-là, puis poser des questions à tout témoin qu'il croit utile. À moins d'une indication spécifique dans la convention collective, l'arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours de la fin de la dernière séance d'arbitrage ou du début du délibéré, le délibéré étant le moment où il est en réflexion pour prendre sa décision. Par contre, les parties peuvent consentir par écrit à une extension de ce délai-là. Donc, encore une fois, c'est des règles générales. Les parties peuvent décider de procéder autrement si c'est ce qu'elles désirent. Par contre, l'arbitre qui ne se conformerait pas à cette condition-là, ben, il ne pourrait pas exiger d'honoraires ni de frais. L'arbitre doit déposer la sentence une fois qu'elle est rendue en deux exemplaires, une auprès du ministre du Travail et en transmettre une copie aux parties. Donc, ça permet d'avoir en fait une transparence à l'égard du processus arbitral parce qu'ensuite, les sentences sont diffusées dans le public via différentes banques informatiques ou des publications. En cas de défaut de l'arbitre de respecter les conditions de délai, de dépôt, de transmission, ben, le tribunal administratif du travail peut s'en charger, puis sur requête d'une des parties, rendre toute ordonnance nécessaire pour corriger la situation. Une fois que la sentence est déposée, ben, la sentence de l'arbitre est finale et sans appel, puis elle va lier les parties ainsi que ben, tout salarié qui est concerné en fait par cette décision-là. Si la décision n'est pas exécutée, ben, la sentence arbitrale peut être déposée au bureau du proto-notaire. En fait, c'est un bureau à la Cour supérieure. Puis à ce moment-là, ben, il va y avoir une requête qui pourra être faite pour outrage au tribunal devant un tribunal judiciaire.
Oui, donc si on revient un petit peu à la tâche de l'arbitre, là, comme on l'avait dit précédemment, ça consiste vraiment comme un juge à trancher un litige. Donc, la sentence arbitrale doit reposer sur la preuve recueillie à l'enquête et la décision doit être motivée, bien évidemment. Donc, afin de donner plein effet au processus d'arbitrage de grief, un vaste pouvoir de réparation est reconnu aux arbitres par les tribunaux supérieurs depuis quand même une trentaine d'années. Là. Donc, entre autres, il y a l'arbitre qui possède le pouvoir de rendre des ordonnances monétaires là, en matière disciplinaire. L'arbitre possède un important pouvoir de révision également. Donc, l'arbitre peut confirmer ou annuler une décision contestée d'un employeur. Dans ce cas-là, l'arbitre peut, en principe, substituer son opinion à la sanction imposée comme la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Les parties peuvent quand même écarter ce pouvoir-là en prévoyant expressément dans la convention collective une sanction déterminée pour une faute reprochée. Dans la mesure où cette faute-là est prouvée, bien évidemment, l'arbitre est alors prouvé de son. En fait, il est privé de son pouvoir de substitution. Il était quand même nécessaire de prévoir un mécanisme simple, souple et efficace pour protéger les salariés qui exercent des droits en vertu du Code du travail. Là, et c'est pour ça qu'on a l'interdiction à l'article 15 du Code là, qui interdit à tout employeur ou à tout agent de l'employeur de congédier, suspendre, déplacer, imposer une mesure discriminatoire ou toute autre forme de sanction à l'égard d'un salarié qui a exercé un droit résultant du code. Donc, admettons, un salarié qui serait victime d'une telle pratique peut déposer une plainte au TAT, au tribunal administratif du travail, et ce, dans les 30 jours de cette sanction qu'il a subie. Il faut quand même insister sur le délai de 30 jours, puisque, comme on a vu dans notre capsule de la loi sur le minimum du travail, la plainte de pratique interdite à l'article 122, là, les articles ne sont pas si importants en tant que tel, ou pour vous, là, où la plainte de congédiement est sans cause juste et suffisante, sont soumis à un délai de 45 jours. Et ça, c'est pas la norme, la loi sur les normes du travail, mais la disposition du code du travail est différente. Il y a un article qui prévoit que le délai applicable est celui du 30 jours. Donc, à partir du moment où un salarié a déposé une telle plainte, il va devoir faire la démonstration d'un certain nombre d'éléments devant le TAT. Donc, d'abord, il faut qu'il fasse la preuve qu'il est un salarié au sens de la loi. Deuxièmement, qu'il a exercé un droit en vertu du code du travail. Et troisièmement, qu'il a subi une sanction, une mesure de représailles, une suspension, un congédiement. Et quatrièmement, qu'il exerce en fait, qu'il existe une certaine concomitance, donc un lien, si on peut dire, soit un laps de temps relativement court entre l'exercice du droit d'une part et la sanction qu'il a subie. Finalement, le cinquième élément, il faut qu'il prouve qu'il a déposé sa plainte dans le délai prévu, soit de 30 jours. Donc, il faut vraiment qu'il fasse quand même cinq preuves, là, si on peut dire, là, donc cinq éléments importants à prouver. Et dans la mesure où il peut réussir à faire ces démonstrations-là, le Code du travail prévoit un mécanisme de présomption. Donc, elle va dire, à partir de ce moment-là qu'il a tout prouvé, ces cinq éléments-là, l'employeur est présumé avoir imposé la sanction en raison de l'exercice du droit protégé par le code. Et à ce moment-là, il appartiendra à l'employeur de tenter de repousser cette présomption-là. Comment il peut repousser cette présomption? Ben, c'est en faisant la démonstration qu'il y a une autre cause juste et suffisante. Donc, autrement dit, il devra convaincre le tribunal qu'il a imposé, par exemple, le congédiement, non pas parce que le salarié voulait fonder un syndicat au sein de l'entreprise, mais plutôt parce que le salarié, il y avait un comportement déficient. Donc, il va falloir qu'il fasse cette preuve-là. Dans la mesure où l'employeur réussit à repousser la présomption, le tribunal va à ce moment-là rejeter à l'inverse, si l'employeur ne réussit pas à repousser cette présomption, que le motif mis à l'avant par l'employeur est considéré comme un prétexte par le tribunal, la plainte sera accueillie. On pourra ordonner à ce moment-là la réintégration du salarié ou la cessation de la mesure discriminatoire ou arbitraire et le remboursement du salaire perdu.
En fait, il y a un article dans le Code du travail qui stipule qu'une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qui soient ses membres ou non. Donc, c'est bien important de comprendre l'étendue de cette obligation-là. Ça impose pas la meilleure représentation possible. Les termes choisis par le législateur pour les lois, ben c'est important. Ce qu'on interdit, c'est la mauvaise foi, l'arbitraire, la négligence grave. Donc, on s'écarte vraiment du concept de personne raisonnable, qui est un concept qu'on voit souvent en droit ou de la faute civile. Il suffit pas de démontrer que le syndicat a commis une faute, là. Il faut démontrer que le syndicat a agi de mauvaise foi, de façon arbitraire, qui a fait preuve de négligence grave. Donc, on voit que ce concept-là, il est très limitatif, puis que le fardeau de preuve qui va incomber au salarié, il va être quand même assez lourd, car s'il ne réussit pas à faire une telle démonstration, bien, la plainte va être rejetée. Donc, c'est un fardeau de preuve qui est assez important que l'on impose au salarié qui veut se plaindre de son syndicat. C'est quelque chose à savoir. C'est pas parce qu'un salarié formule un grief que le syndicat doit obligatoirement l'amener à l'arbitrage. Ça se peut que le syndicat soit appelé à faire des choix entre certains griefs puis décider de bonne foi de ne pas porter un certain grief à l'arbitrage, sans que ça constitue une contravention à son obligation d'agir de bonne foi. Donc, tu sais, il faut comprendre que dans la réalité, un syndicat peut avoir des priorités, il peut avoir des restrictions budgétaires. Ça se peut qu'il décide de choisir ses combats puis qu'il décide de bonne foi de ne pas porter à l'arbitrage un grief d'un salarié. Son obligation, encore une fois, c'est d'analyser chaque grief, de faire une enquête qui est sérieuse, de déterminer s'il doit ou non déposer un grief et de faire les choix qui s'imposent pour savoir ce qui portera à l'arbitrage. Donc, c'est très rare que la convention collective permette à un salarié seul d'amener un grief à l'arbitrage. C'est généralement le seul pouvoir de l'association. Donc, c'est à elle qu'il appartient de faire des demandes pour les arbitrages, en fait. Pour un défaut ou plutôt une contravention à cette obligation-là d'agir de bonne foi, Mais en matière de harcèlement psychologique, de renvoi ou de sanctions disciplinaires, ben, il est prévu par le Code du travail que le salarié, en fait, lui-même peut déposer une plainte au tribunal administratif du travail à l'encontre de son syndicat, et ce, dans les 6 mois de la négligence du syndicat. Donc, l'objectif ici, ça serait de permettre au salarié d'aller lui-même à l'arbitrage s'il a raison. Donc, pour situer un peu, c'est un recours. Donc, si jamais il y a eu harcèlement psychologique, par exemple, puis qu'on considère que le syndicat a fait preuve de négligence dans sa gestion un petit peu de ce dossier-là de harcèlement psychologique, bien là, dans ce cas-là, le salarié pourrait déposer seul une plainte au tribunal administratif du travail. Donc, par exemple, pour prendre un exemple plus concret, parce qu'on s'entend que c'est des concepts qui sont quand même compliqués, il y a des délais qui s'ajoutent à ça, par exemple, puis des fois, on comprend le principe, mais on a de la difficulté à savoir dans la vraie vie qu'est-ce qui correspondrait à ça. Donc, on vous a préparé un exemple. Dans le fond, selon cet exemple-là, admettons qu'un salarié est congédié, que ce salarié-là a déjà milité contre un autre syndicat ou un syndicat rival à celui en place. Donc, le syndicat qui est en place, ben, il n'apprécie pas trop ce salarié-là, puis il refuse de déposer un grief pour contester le congédiement du salarié en question. Ben, le salarié, il pourrait déposer une plainte dans la mesure où il respecte le délai de 6 mois. Puis à ce moment-là, il va avoir une audition devant le tribunal administratif du travail. Donc, le tribunal administratif du travail, à ce moment-là, n'aura pas à se demander si le grief est bien fondé ou non. Donc, on parle ici du grief pour le congédiement du salarié en question. Mais la première étape, ça va plutôt être de déterminer est-ce que le syndicat a contrevenu à son obligation d'agir de bonne foi. Donc, le fardeau de la preuve va incomber au salarié. Ça va être à lui qui va devoir... Ça va être lui, en fait, qui va devoir démontrer que le syndicat a contrevenu à cette obligation. S'il ne réussit pas à faire cette démonstration-là, bien, sa plainte va être rejetée. À l'inverse, s'il réussit à prouver que le syndicat a contrevenu à son obligation d'agir de bonne foi, bien, à ce moment-là, sa plainte va être accueillie, puis sa réclamation va être transmise à un arbitre pour que ce dernier détermine si oui ou non le congédiement était bien fondé, Puis à ce moment-là, les frais liés à l'arbitrage, tout ça, vont être assumés par le syndicat. Puis parfois, même le salarié pourrait même être représenté par la personne de son choix. Puis ça, encore une fois, ça serait aux frais du syndicat.
Donc, c'est ce qui mettait fin à l'arbitrage de grief. Maintenant, on va parler de l'arbitrage de différends. C'est encore un mode de résolution de conflits. Ici, c'est vraiment plus pacifique que la grève ou le lockout, qui, eux, sont vraiment des moyens de pression quand même très forts, là. Et l'arbitrage de différends peut être volontaire en vertu du Code du travail, mais il peut aussi être obligatoire dans certains cas. Donc, pour l'arbitrage volontaire, c'est les deux parties qui vont consentir à ce mode de résolution de conflit, et ce mode prend un caractère obligatoire du simple fait que les parties le choisissent. Donc, à partir du moment où les parties consentent à ce mode de résolution-là, ils ne peuvent pas faire marche arrière et se retourner vers la grève ou le lockout pendant la négociation, donc pour qu'elle soit légale. Le différend, il va être confié à un arbitre qui va détenir les mêmes pouvoirs qu'on a nommés précédemment avec l'arbitrage de grief. Et ensuite, il y avait l'arbitrage obligatoire. Ça va être justement comme dans le cas des policiers et des pompiers municipaux, étant donné que justement, ils peuvent pas recourir au mode de grève ou de lockout à cause que ce genre d'emploi-là rend impossible le fait qu'ils peuvent faire du piquetage ou quoi que ce soit, ou manquer des heures de travail. C'est vraiment, ça ferait que la société pourrait plus fonctionner comme du monde si justement il était en grève, là. Donc, ça va... dans ce cas-là, c'est de l'arbitrage obligatoire. Donc, c'était tout pour la dernière capsule et c'était justement ce qui mettait fin au rapport collectif. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était quelque chose qu'on trouvait quand même important de vous mentionner. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. Bye!